Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Nous parlons cette semaine de l'exportation des produits marocains dans le continent. Nous nous intéressons aux produits agricoles notamment. Vous aurez les détails dans quelques instants dans le Zoom Express. Nous prendrons un exemple donc à Fès où une société marocaine active dans l'huile d'olive vierge extra biologique exporte donc ces produits. Nous en parlons dans quelques instants. Mais avant cela, nous serons en Côte d'Ivoire pour voir les opportunités qui s'y offrent dans le secteur de l'habitat et notamment les perspectives pour cette année 2025. Et notre destination de la semaine nous mène en Tanzanie. La Tanzanie en Afrique de l'Est, comment se porte l'économie tanzanienne et quelles sont les opportunités d'investissement dans ce pays de plus de 50 millions de consommateurs? Vous aurez les détails dans la rubrique Destination Éco. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Direction donc la Côte d'Ivoire, où le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme était face à la presse nationale et internationale cette semaine. Au menu des échanges, le bilan des réformes entreprises en 2024 et les perspectives pour cette année 2025. Suivons ce compte-rendu de Max Sohoubi depuis Abidjan.
Le déficit de logements en Côte d'Ivoire est estimé à 800 000 logements, dont l'essentiel à Abidjan, un déficit qui croît d'environ 10% chaque année. L'accès au logement dans le pays demeure une préoccupation majeure pour les populations ainsi que les pouvoirs publics. En 2024, plusieurs actions et réformes ont été entreprises par le ministère en charge de la construction, comme l'attestation de droit d'usage coutumier qui remplace désormais l'attestation villageoise. Bruno Nambagné-Koné, ministre ivoirien de la construction et de l'urbanisme.
Notre objectif est de réduire le nombre de litiges fonciers, le nombre de litiges liés au foisonnement des attestations qui aujourd'hui existent. Donc l'ADU aujourd'hui est la résultante d'une réforme profonde de simplification et de sécurisation des actes du foncier urbain. Vise uniquement, comme précédemment l'attestation villageoise, à reconnaître les droits d'usage coutumiers aux bénéficiaires des lots.
La vision en matière d'urbanisme et d'habitat est d'offrir un cadre décent, un cadre assaini, et bien structuré aux populations. Cela à travers une gestion foncière sécurisée et une offre de logements décents et abordables. Bruno Nambagné-Koné, ministre ivoirien de la construction et de l'urbanisme.
Cette vision se traduit en actions prioritaires. Ces actions, il y en a 5 que je vous cite rapidement. C'est disposer d'outils de planification et de gestion urbaine. Deuxièmement, moderniser, sécuriser, simplifier les démarches et la production des actes administratifs du foncier. Troisièmement, renforcer l'intégrité juridique de l'ACD pour en faire définitivement un élément de sécurisation des transactions en matière foncière. Quatrièmement, sécuriser le cadre bâti. Et cinquièmement, réglementer le secteur de l'habitat et relancer durablement le programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques.
Un programme de construction de 25 000 logements sociaux a été lancé par le ministère en charge de la construction, d'une part en location-vente et d'autre part en location simple. Max Oubi pour Mehdi 1, Abidjan.
Zoom Express.
Et nous parlons de l'exportation des produits marocains dans le continent. Cette semaine, nous nous intéressons aux produits agricoles. Et là, on va essayer de voir ce qui se fait en termes donc d'exportation de certains produits très prisés à travers le monde. Je pense notamment à l'huile d'olive. Il est vrai que ces dernières années, la sécheresse a impacté les expos, la production, en tout cas marocaine, d'huile d'olive. Mais cela dit, peut-être que de perspectives meilleures s'annoncent une fois que la situation sera rétablie, que certainement la production sera de retour, ainsi donc les exportations. Et on a le plaisir d'en parler avec Rizlène Tazi. Elle est manager de Nour Fez. C'est une entreprise active donc dans la production d'huile d'olive vierge extra biologique. Bonjour à vous, Rizlène Tazi, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Marbaldé. Merci à vous de m'inviter.
Plaisir donc pour nous et avec nous également Mustapha El Bouri, comme chaque semaine dans cette rubrique. Bonjour à vous, Mustapha El Bouri.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes le directeur général de la plateforme Best Afrique qui connecte donc les diasporas africaines entre elles, mais aussi les diasporas étrangères basées sur le continent pour accroître les investissements et encourager la faisabilité des projets donc dans plusieurs domaines. Alors, comme je le disais, on s'intéresse cette semaine à une filière donc oléicole qui fait la fierté de la production marocaine. Et pour cela, donc Rizlène Tazi, manager de Fnour, basé donc à Fès, est avec nous. Alors, parlez-nous tout d'abord, Madame Rizlène Tazi, de votre entreprise et de ses activités.
Oui, volontiers. Alors, Nour Fez, en effet, on est producteur d'huile d'olive vierge extra biologique. Notre domaine est situé à Fès. Le siège social est à Casablanca, mais les activités agricoles ont lieu à Fès, où on a un domaine de 300 hectares avec des arbres de la variété picholine exclusivement. Et donc, on fait pousser nos arbres sur le domaine. On a notre unité de trituration qui est au sein du domaine, ce qui permet qu'il y ait moins de 3 heures entre la récolte à la main et la presse des olives, parce qu'il faut que l'olive soit fraîche pour avoir un jus d'olive qui soit bon et qui soit de bonne qualité. On embouteille également tout au domaine. Et voilà, ça nous permet d'avoir une huile de très bonne qualité qui a gagné de très nombreuses médailles dans les concours internationaux d'huile d'olive les plus prestigieux. Donc c'est une grande fierté pour nous et pour le Maroc. Et nos activités ont commencé essentiellement au Maroc en 2020, en plein Covid. Et ça a été notre marché principal, ça l'est toujours depuis lors. Et puis là, ça fait un an et demi qu'on commence à s'attaquer à l'international pour voilà, essayer de faire briller une marque marocaine d'huile d'olive à l'étranger. Il y a l'huile d'argan qui est très connue comme produit marocain. L'huile d'olive ne l'est pas du tout alors qu'on est un pays producteur important. Donc voilà, ça nous ferait plaisir d'avoir une huile marocaine qui arrive à percer à l'étranger.
En tout cas, je pense que déjà, chapeau pour avoir démarré durant la période du Covid, hein, qui était une période où beaucoup ont rangé leurs projets d'investissement. Alors, cela dit, qu'en est-il justement de ces activités d'exportation? On imagine que la demande vers les pays européens, américains ne devrait pas manquer, mais parlez-nous de ça et aussi s'il y a une demande africaine.
Volontiers. Alors en fait, on a commencé à réfléchir à l'exportation, comme je vous disais, il y a un an et demi. Et pour ça, comme on ne connaissait pas trop les demandes dans les différents pays, on est allé participer à des salons. Donc on est allé au New York Fancy Food, qui est le principal salon agroalimentaire en Amérique. On est allé au Gulf Food à Dubaï. On n'est pas allé immédiatement en Europe parce que la quasi-totalité de l'huile d'olive du monde est produite en Europe, en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Italie. Donc on s'est dit qu'ils étaient déjà relativement saturés et qu'il y avait probablement plus d'opportunités ailleurs. Et on a eu la chance à New York d'être remarqués par la chaîne Whole Foods Market, qui est une chaîne de magasins organiques de produits frais aux États-Unis et qui a aimé notre huile. Donc, on a candidaté pour être retenu dans leur assortiment. Ça a fonctionné. Et donc, aujourd'hui, depuis 6 mois à peu près, on est présent dans environ 400 magasins Whole Foods sur le territoire américain. Donc ça, c'est, voilà, c'est la première grosse opération. On a fait quelques autres petites opérations spot ailleurs, mais pour le moment, voilà, c'est essentiellement le marché américain. On a des visées sur le marché UK, le Royaume-Uni. Et puis l'Afrique, alors l'Afrique, nous, on rêverait d'y être. C'est notre continent, c'est l'avenir. Pour le moment, on n'a pas reçu encore réellement de demandes de pays africains. C'est un peu plus compliqué que les US parce que ben, l'Afrique toute seule, c'est une cinquantaine de pays qui sont très différents les uns des autres. Donc ça demanderait un effort de prospection plus intense et on est encore une petite équipe. Mais clairement, si la demande se présente, on y répondrait favorable avec grand plaisir et on adorerait être en Afrique dans un court, voire moyen terme.
En tout cas, on va y revenir. Alors, avant cela, Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique. Alors, une question peut-être que je qualifierais d'assez idiote. Est-ce qu'on s'intéresse, est-ce qu'on connaît l'huile d'olive donc, à travers les pays du continent?
Non, ce n'est pas une question du tout. En fait, justement, autant l'huile d'olive, c'est vrai que c'est un ingrédient essentiel de la cuisine marocaine depuis des siècles, autant l'huile d'olive en Afrique subsaharienne, c'est un produit qui n'est quasiment pas connu, en fait. Hein. Donc, je pense que voilà, l'huile d'argan est connue, un peu connue. L'huile d'olive n'est pas connue du tout. Hein. Moi, dans tous les pays où je vais depuis près de 25 ans, je trouve très, très peu d'huile d'olive, à part peut-être en Côte d'Ivoire, où les gens l'utilisent de façon thérapeutique. Mais aucunement dans l'alimentation. Donc je pense qu'il y a, comme a dit Rizlan, je pense tout d'abord, il y a un travail marketing et de prospection à faire. Et surtout le marketing, faire connaître ce produit, ses vertus, parce que bon, les bienfaits d'huile d'olive aujourd'hui ne sont plus à démontrer. Hein. Les composants de l'huile d'olive, surtout l'huile d'olive extra vierge comme celle de Nourfès, jouent un rôle très important dans tout ce qui est prévention de maladies cardiovasculaires, même d'Alzheimer ou encore tout ce qui est vieillissement cutané. Et je pense que aussi il y a un très, très grand marché, bien entendu, en Afrique subsaharienne. Les Africains cherchent, ils aiment tous les produits qui sont bio, qui sont les produits de terroir et les produits qui ont des vertus pour le corps et pour la santé. Donc, il y a un très, très grand marché. Maintenant, je pense que Best Afrique aussi a peut-être un rôle à jouer là-dessus et on discutera dans les prochains jours avec Rizlen aussi, voir comment on peut faire connaître ce produit.
Justement, alors, Rizlen Tazi, je rappelle que vous êtes manager de Nourfès, une entreprise donc marocaine active dans la production d'huile d'olive vierge extra biologique. Vous parliez de l'intérêt que vous nourrissez pour les pays du continent. Alors, on sait une chose, les produits agricoles marocains ont du succès en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest, je pense au Sénégal et tous les pays limitrophes donc de cette partie du continent. Que recherchez-vous comme partenaire dans ces pays-là pour pouvoir donner de la visibilité à votre production d'huile d'olive marocaine, mais aussi à pouvoir exporter sur place?
Alors, tout d'abord, je suis hyper alignée avec ce qu'a dit Moustapha, à savoir qu'aujourd'hui, la consommation d'huile d'olive en Afrique est quasiment inexistante, mais le potentiel est énorme. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années aux États-Unis. Il y a encore quelques années, les Américains ne consommaient pas d'huile d'olive non plus, mais il y a eu de très gros efforts marketing qui ont été faits pour expliquer aux Américains que c'est un produit qui est excellent pour la santé, mais qui est excellent aussi dans le cadre de tous les régimes, quels que soient les régimes pour maigrir. De keto à n'importe lequel, l'huile d'olive est toujours présente parce que c'est un bon gras qui ne fait pas grossir et qui en plus, comme le disait Moustapha, peut permettre de soigner ou en tout cas de prévenir un très grand nombre de maladies. Et donc il y a des lobbies qui se sont mis en place, notamment une association qui s'appelle la NAOOA, North American Olive Oil Association, qui fait un travail remarquable pour faire connaître les bienfaits de l'huile d'olive, ce qui a facilité énormément l'entrée d'acteurs européens et de nous-mêmes sur ce marché-là. Donc je suis d'accord que en Afrique et notamment au Sénégal, comme vous dites, il y a des personnes qui voyagent pas mal et qui commencent à connaître l'huile d'olive et qui nous en parlent, mais il y a un gros effort à faire avec peut-être des agences de santé qui sont basées dans les pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique de l'Ouest pour faire connaître le produit et créer une demande. Et une fois que la demande sera créée, comme je vous le disais, évidemment on sera là pour y répondre. Et la première façon la plus facile et la plus rapide, c'est de trouver un importateur qui importe déjà des produits agroalimentaires du Maroc et donc se greffer à ces imports pour ajouter de l'huile d'olive dans ses transports de marchandises. Et ensuite, si le potentiel est confirmé et que le volume de demande augmente, nous, la façon dont on procède, c'est qu'on ouvre des sociétés dans les pays où on est convaincu du potentiel. Ça nous permet de transporter de plus grandes quantités de marchandises, de la stocker dans les pays dont on parle, et donc d'être beaucoup plus réactif face à la demande, pouvoir livrer par exemple des supermarchés tous les jours ou toutes les semaines, plutôt que d'attendre qu'un importateur nous fasse une demande d'import tous les mois ou tous les deux mois. Mmh. Donc je pense que oui, ça commencerait par un importateur déjà établi, qui soit un partenaire fiable, qui importe déjà des marques intéressantes. Et puis ensuite, si le marché se confirme, on s'implanterait directement. Donc aux États-Unis, on a créé notre société. Au Royaume-Uni, on a créé notre société. Dès qu'on sent que le potentiel est là et qu'il y a de la demande.
Mmh. En tout cas, je pense que cette réussite sur le marché américain devrait être dupliquée donc, ici dans le continent. On va y revenir. Alors, Mustapha El Bouri, vous mettez en contact donc, les investisseurs du continent. Alors, un produit en tout cas aussi prestigieux que l'huile d'olive, certainement, comme vous le dites, si les gens connaissent davantage, ils vont en demander davantage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour connecter peut-être des importateurs ou bien des commerçants d'Afrique subsaharienne avec des entreprises marocaines actives dans ce domaine-là?
Tout d'abord, pour faire connaître un produit, il faudrait déjà aller le présenter ou créer des symposiums avec les principaux protagonistes des produits agroalimentaires dans un pays et leur présenter le produit. Je pense qu'il faut vraiment faire connaître le produit, puis comme a dit Rizlan, faire connaître aussi les vertus du produit parce que les gens ne connaissent pas. Maintenant, il y a un cas d'école quand même qu'on peut prendre en Afrique, c'est quand même l'Afrique du Sud, hein. L'exception qui confirme la règle. Mmh. L'Afrique du Sud, depuis 4-5 ans, sa consommation d'huile d'olive, elle a augmenté de façon vraiment exponentielle. Aujourd'hui, ils consomment près de 4 millions de litres par an, alors qu'il y a encore 5 ans, ils ne connaissaient pas ce produit. Donc je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose qui a été fait là-bas. Je pense qu'il faut peut-être voir à la rigueur, c'est peut-être un cas d'école à prendre. Mmh. Mais pour faire connaître le produit, oui, je pense qu'il faut le présenter, faut faire l'effort. Comme a dit Rizlan, c'est vrai qu'en Afrique subsaharienne, il n'y a pas beaucoup de salons de l'agroalimentaire. Maintenant, ça n'empêche pas de mettre en place des conférences ou des symposiums pour présenter un produit. Et nous, je pense qu'on peut aider là-dessus. Ben, c'est vrai qu'on peut aider là-dessus. On fait déjà ça dans beaucoup d'autres domaines, de réunir les protagonistes et de leur présenter le produit. Mmh. Donc, dans un premier temps, il faut vraiment présenter le produit, que les gens le voient, le testent, le connaissent. Et puis après, oui, mettre en place des importateurs et des représentants dans les principaux pays. Et le Sénégal est un très bon exemple de hub aussi, parce que beaucoup de pays avoisinants viennent acheter des produits au Sénégal. Il n'y a pas que le Sénégal. Donc tous les pays voisins, donc le Sénégal est
une porte d'entrée.
Un pays à travailler en premier.
Mmh, une porte d'entrée, donc, qui donne sur d'autres antichambres. Alors, une dernière question pour terminer pour Rizlane Tazi, manager de Nour Fès. Alors, par rapport, on a vu que le potentiel est là. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, il y a un besoin de financement et d'appui financier, quel qu'il soit, pour que les sociétés marocaines qui exploitent de l'huile d'olive puissent s'engager sur le continent, ou peut-être, vous dites-vous, que c'est plus rentable du côté des États-Unis, par exemple?
Alors, ce n'est pas que c'est plus rentable, mmh. mais effectivement, il y a une concurrence, en tout cas, qui est très importante de la part des pays du bassin méditerranéen. Mmh. Et eux, typiquement, sont subventionnés, c'est vrai, vu que c'est un élément très important de leur production agricole et de leur économie. Ils sont subventionnés à l'achat des plants d'olives sur la trituration et beaucoup à l'export. Et du coup, en tant qu'huile marocaine, c'est difficile d'être compétitif parce qu'on a un coût de revient qui est autour de 10 euros le litre. Je donne une fourchette très large. En ce moment, l'Espagne est à 4 euros le litre. Donc clairement, si le potentiel s'ouvre en Afrique, ce sera plus logique pour eux, ou en tout cas beaucoup plus efficace d'un point de vue économique, d'importer depuis l'Espagne. Et c'est ce qui se passe dans quasiment tous les pays. Nous, on a réussi à aller aux États-Unis parce qu'on essaye de se démarquer en tant qu'huile marocaine. Les Américains sont maintenant habitués aux huiles espagnoles et italiennes. Et notre huile, la variété Picholine, elle a quand même un goût qui est très différent. Et donc, certains consommateurs veulent ce goût différent. Mmh. Parce que l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, mais c'est surtout très bon quand on cuisine avec. Mmh. Et donc, on a pu y aller. Mais effectivement, si on veut commencer à installer le produit huile d'olive en Afrique, et si on veut que le Maroc ait une chance de pouvoir le faire, effectivement, il peut y avoir un système d'appui financier qui pourrait nous aider à être compétitif d'un point de vue prix sur ce continent par rapport au bassin méditerranéen. Mmh. Eux ont une production très importante, vous en parliez en tout début d'émission. Mmh. Nous, ça fait 4-5 ans qu'avec la météo, on a des productions qui sont très très faibles. L'export est interdit, en tout cas d'huile d'olive en vrac. Mmh. Il est autorisé quand on fait comme nous une huile d'olive vierge extra, donc à valeur ajoutée, qui est embouteillée et avec la marque Nourfez et l'appellation marocaine. Donc en fait, quand on fait briller, entre guillemets, le produit agricole marocain à l'étranger, là on a le droit de l'exporter. Donc il faut faire une demande de licence d'exportation, ça prend un petit peu de temps, mais on arrive à le faire. Donc on peut exporter aujourd'hui, on a quand même un volume suffisant pour le faire en Afrique, mais évidemment un coup de pouce d'un point de vue marketing et d'un point de vue financier est toujours utile et toujours le bienvenu.
En tout cas, c'est à suivre et nous espérons que d'ici les quelques années ou peut-être dès cette année, la production donc d'huile d'olive au Maroc reviendra à ce qu'elle était avant donc ces années de sécheresse. Merci à vous, Rizlène Tazi, manager de Nourfez, qui, je le rappelle, est une entreprise marocaine active dans la production d'huile d'olive vierge extra biologique. Donc, vous nous parliez de vos activités à l'export. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ainsi que Mustapha El Bouri, notre partenaire dans cette rubrique, et qui est donc manager et directeur général de la plateforme Best Afrique. Merci à vous deux d'avoir été dans Coémergence.
Merci beaucoup, M. Baldé.
Merci à vous.
Destination Éco.
Nous allons en Tanzanie, et c'est en Afrique de l'Est, sur les rives de l'océan Indien. La Tanzanie, c'est un important marché de plus de 63 millions de consommateurs. Comment se porte l'économie tanzanienne? Nous en parlons avec Idriss Lingé, directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres la plateforme Ecofin. Bonjour à vous, Idriss Lingé.
Bonjour Omar, bonjour aux auditeurs de Midi Radio. Aujourd'hui, nous allons leur parler de la Tanzanie. C'est un pays qui est situé en Afrique de l'Est, juste à côté du Kenya. Et pour information, c'est le pays qui abrite le mont Kilimandjaro. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, c'est beaucoup plus facile d'accéder à cette montagne historique de l'Afrique par le Kenya. Alors, la Tanzanie affiche une croissance économique notable avec un produit intérieur brut réel, qui a augmenté de 5,3% en 2023 contre 4,7% en 2022. On attend encore les chiffres de 2024. Le PIB en Tanzanie, au contraire de beaucoup de pays africains, n'est pas soutenu par le pétrole, n'est pas soutenu par les mines, mais il est soutenu par l'agriculture, la construction et l'industrie manufacturière. Donc c'est une économie qui est adossée sur un système productif. Et de plus, on note qu'en Tanzanie, l'inflation est restée assez modérée. D'ailleurs, elle est passée de 4,3% à 3,8% en 2023. Ce qui veut dire que les prix n'augmentent pas aussi vite en Tanzanie. Au contraire des pays comme par exemple le Ghana ou encore le Nigeria, où on a vu des chiffres d'inflation à deux chiffres. Et cela grâce à une politique monétaire bien contrôlée. Il n'y a pas beaucoup de spéculation sur le shilling tanzanien, ce qui fait que la monnaie conserve une certaine stabilité et le pays parvient à régler des problèmes liés à la balance des paiements. Alors, l'agriculture est un pilier de l'économie en Tanzanie. L'agriculture, elle représente 25% du PIB, elle emploie 70% de la population active. Et le secteur minier, qui est riche, tel que l'or, les pierres précieuses, apporte 4% du PIB, comme je vous le disais. Le tourisme et de la biodiversité de la Tanzanie font que ce secteur représente 10% du PIB et de l'emploi.
Alors, Idriss Lingé, ce sont donc des indicateurs important sur l'économie tanzanienne. Alors, vu du Maroc aujourd'hui, quelles sont les opportunités d'investissement qui se présentent avec ce vaste marché qu'est la Tanzanie?
La Tanzanie offre des opportunités d'investissement assez importantes, notamment pour les Marocains qui ont développé des techniques et des compétences sur les chaînes de valeur agricole. Mais la Tanzanie est aujourd'hui aussi en train de travailler sur le développement du pétrole, du gaz, mais aussi des mines et surtout l'industrie manufacturière. Il y a une opportunité pour le Maroc de venir investir dans ce pays, dans ce que le royaume a su faire en termes de production de voitures, en termes de montage de certains équipements technologiques pour cibler des pays situés sur le côté de l'océan Pacifique. Le gouvernement met en œuvre des réformes pour améliorer le climat des affaires, moderniser les infrastructures faciliter l'accès au financement dans le cadre d'une vision de développement. Le défi, par contre, pour ceux qui vont en Tanzanie, c'est que vous devez vous y mettre à parler le swahili. Ils parlent très bien anglais, mais tout le monde parle swahili, y compris dans les bureaux et dans les documents administratifs. Il faudra surmonter cela, mais au-delà de tout, la Tanzanie, c'est vraiment un pays de rêve en termes de destination d'investissement. Pour ceux qui ne veulent pas juste aller visiter l'enclave sous autonomie de Zanzibar.
Merci à vous, Idriss Lindje, pour tous ces éclairages sur l'économie tanzanienne. Je rappelle que vous êtes le directeur de rédaction de Media Mania, qui édite entre autres la plateforme Ecofin.
À très bientôt pour un autre pays.
Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.